Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au menu de cette émission, la conquête du Graal en catégorie vintage, c'est ce que va tenter notre pilote de l'extrême, Christophe Marquis, dans 28 jours, le 28 juin exactement. Christophe va prendre le départ de cette fameuse et mythique course de Pikes Peak aux USA. Pikes Peak, c'est une course de côte de 19,93 kilomètres de long, avec 156 virages, un départ donné à 2865 mètres d'altitude et qui se termine à 1440 mètres plus haut. Ça fait quand même 4305 mètres, d'où le surnom de course vers les nuages. Ça fait froid dans le dos. Bonjour Christophe.
Bonjour l'ami.
Alors tu remets ça encore cette année ?
Ben oui.
Ça fera la deuxième fois là.
Ça fera la deuxième
maintenant,
fois.
Tu vas me dire, maintenant tu es habitué quand même.
Ça commence à venir un petit peu. Disons qu'on y va avec quasiment moins d'appréhension que la première fois, pour des raisons d'organisation, de maîtrise un petit peu de la moto, même si on est encore loin d'être au point. Et puis surtout, on connaît les rouages, on connaît l'organisation, on connaît un petit peu tous les pièges à éviter. Mais bon, c'est un truc tellement... C'est une drogue.
Toute la préparation technique avant, hein, au niveau de la réglementation à respecter.
Oui. Alors, il y a deux ans, j'étais parti avec un 650 XS configuré Dirt Track, hein, ce qui est un mot qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Mais j'avais voulu respecter les rules à la lettre. Hein, moi, brave petit pilote français, très respectueux des règlements. Je m'étais dit, c'est une catégorie vintage, c'est des motos anciennes. On a droit à 2-3 bricoles, point final. Et je l'avais expliqué ici même. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu les autres motos de ma catégorie qui étaient des véritables avions de chasse issus des championnats de Dirt Track US des années 70-75, préparés, peaufinés, gonflés de tous les côtés. Pour te dire, elles démarraient les essais à 4h du matin à 2300 mètres en wheeling. Tu vois un peu la pêche pour des BSA, des Norton, des années 70.
Ah oui, quand même.
Voilà, c'est truc comme... Donc là, j'avais été enfumé pendant 8 jours. Même les motos électriques allaient plus vite que moi. Là, j'ai dit cette fois-ci...
Et là, tu t'es dit... Non. L'année prochaine,
une fois, pas
voilà.
De...
Et là, on y est l'année prochaine. Voilà.
Là, on y est, comme voilà. Tu dis, dans 28 jours, t'as fait le décompte mieux que moi, parce que moi, je compte plus.
Tu prends le départ de cette fameuse et mythique course. Hein, voilà. Il faut dire que c'est vrai, j'ai fait les comptes, 4305 mètres, hein, ça fait à peu près, c'est comme si on avait fait une route sur le Mont Blanc. Hein.
Presque, il manque hein 200 mètres, je crois.
Il manque 200 mètres.
C'est 4805 le Mont Blanc, c'est ça ? On n'est pas loin.
C'est incroyable, ça.
C'est incroyable, mais en même temps, tu es tellement dans la course, tu es tellement concentré que tu te rends pas compte que tu montes si haut. Enfin, quand tu es préparé physiquement, tu t'en rends pas très très bien compte. Quoi. C'est surtout dans la journée, quand on redescend et qu'on voit cette immensité au loin, qu'on se rend compte qu'on est très très haut.
Puis je vois, il n'y a pas que la machine qui a été préparée, c'est aussi le pilote a fait des efforts, hein, puisque tu viens de dire que tu avais fait l'île Ardelot week-end dernier. C'est très bien.
Le week-end dernier, effectivement.
Ça va t'alléger un peu. C'est là de gagner du poids sur
la moto.
Sur le métal,
il fallait gagner sur la bête aussi, sur les deux bêtes, il fallait gagner. Voilà.
C'est bon, ça a été
dur. Je pense que j'aurais moins mal au cul sur le XS que j'ai eu sur le vélo, mais c'était...
Oh, puis ça durera un peu moins longtemps quand même.
Ah, ça durera beaucoup moins longtemps, oui.
Ouais, je te propose de passer un morceau de musique et ensuite on va revenir sur cette fameuse course de Pikes Peak.
Ok.
To my soul, the devil is in your town. I believe to my soul, the devil is in your town. You're screaming and crying as the way you put me down. Nobody knows how much evil is in your mind today. Nobody knows how much evil is in your mind today. I'm gonna pack my suitcase, make my getaway. He's a devil's woman. She's a devil's woman. She's a devil's woman. She's a devil's woman. That woman was the devil. The devil stole my heart. Thank you. station trying to leave this town. I'm standing at the station trying to leave this town. I can stay much longer, baby, you do me wrong. She's the devil's woman. She's the devil's woman. She's the devil's woman. She's the devil's woman. That woman was the devil. The devil stole my heart. Lightning, trying to forget your name. I'm drank a white lightning, trying to forget your name. I'll light the funny cigarettes and smoke away my pain. She's the devil's woman. She's the devil's woman. She's the devil's woman. She's the devil's woman. That woman was the devil. The devil stole my heart. She's the devil's woman. She's the devil's woman. She's the devil's woman. She's the devil's woman. That woman was a devil. The devil stole my heart.
Invité aujourd'hui, c'est Christophe Marquis, Christophe qui va prendre le départ de cette fameuse et mythique course de Pice Peak aux USA. On va revenir un petit peu sur la machine, la préparation. Cette fois-ci, c'est plus une 650, c'est une 750.
C'est une 750.
Ce sera même un peu mieux déjà.
Ça sera. Pour pouvoir, normalement, il y a déjà 100 cm3 de plus. après, on jouera bien sûr sur les gicleurs et la carburation. Mais bon, allumage électronique et 100 cm3 en moins, ça devrait déjà être un petit plus. Surtout qu'on puisse. La moto a été reconfigurée, repensée complètement. En fait, elle a été mise à poil dès qu'on est rentré. On est reparti de zéro, c'est-à-dire le cadre a été scié, allégé, dépouillé, repeint derrière, bien sûr. On a enlevé toutes les pattes inutiles, on l'a un petit peu affiné. Il y a un tout petit réservoir qui a été monté, qui vient d'une vieille Yamaha un trail des années 70, un DT300 je crois, donc tout petit réservoir qui permet déjà de l'affiner, de gagner pas mal de poids sur ce gros bidon, de mieux la serrer. J'ai voulu partir sur autre chose que la fameuse selle de dirt track en polyester que tout le monde connaît. On est monté un petit cul de selle. Il y a des jantes plus légères. On est toujours en poly libre, on a le droit de rouler en poly libre. Et puis bien sûr ce kit 750, c'est-à-dire qu'il y a les deux tubes
de sortie, c'est tout.
Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de silencieux, il n'y a rien, ça fait un barouf d'enfer, malgré les bandes thermiques.
Ça fait mal aux oreilles.
Moi j'aime bien, c'est sympa. tu t'endors pas comme ça quand tu montes. Et donc, on a investi sur des bons amortisseurs, des vrais amortisseurs racing, pas les pompes à vélo d'origine, c'est des petits détails, mais. On a mis des plaquettes de frein, on recule devant aucun sacrifice. Alors parce voilà, qu'il y a deux ans, on avait oublié de mettre une plaquette de frein à l'arrière.
Tu nous as envoyé un mail à tous là, avec des photos. Hein, donc apparemment, tu t'es dit que tout le monde la trouve sympa. Voire belle.
Franchement.
Il faut avouer que l'année dernière, il faut avouer que tu avais un manque de temps pour la préparation. Et là, cette fois-ci, on sent que ça a été. Quoi.
On a encore été.
Tu as eu le temps de faire certaines choses.
Très, très juste dans le temps, puisqu'on part sur un. En fait, le kit 750 se monte sur certains bas moteurs. Et moi j'avais l'un des premiers bas moteurs.
Alors ce fameux kit il se monte sur les derniers modèles.
Voilà.
Et toi malheureusement t'avais le premier modèle.
Donc grâce
tu fais pas les choses simplement finalement.
Non, j'aime pas ça. C'est ennuyeux à force. Et donc grâce aux amis de la moto, que je remercie encore ici, qui avaient un moteur pour leur sidecar cross, on a fait l'échange de bas moteurs. Puis j'ai filé en Hollande chercher un kit. Alors un kit, en plus c'est beau, le moteur il est neuf, le cylindre il est neuf, déjà au niveau du contrôle technique, au niveau de l'aspect, enfin des vérifications mécaniques, la moto elle est vraiment nickel, si elle n'est pas tombée dans la caisse, dans le conteneur à l'heure où on parle, elle va vraiment être très très belle, parce que j'avais failli...
Et on parlera un petit peu des problèmes après de l'expédition, voilà. Hein, parce que ça c'est aussi toute une histoire,
tout à fait.
Une aventure même.
Parce que la première chose que les commissaires regardent quand tu passes au contrôle technique, on verra pas le déroulé, c'est vraiment ce qu'ils appellent l'aspect clean, il faut que les motos soient clean, nickel. Ah oui. Et il y a deux ans j'étais avec une moto qui était pas belle, qui était sale, qui était rouillé.
C'est pour ça que t'as pas le réservoir.
On n'avait pas avec des stickers kick and coot et tout pâle.
Ils
sont très très bons pour tenir la rouille d'ailleurs.
Très bien. Et ça bouche les trous.
ça bouche les trous. Donc, et puis on a, c'est un détail aussi, mais on peut citer, il y a Continental qui m'a offert deux pneus. Donc c'est des pneus qui sont homologués avec le look Dirt Tract, mais qui sont avec des gommes modernes radiales. Et franchement, le peu d'essais qu'on a fait sur le circuit de Clast au mois de mars, il faisait pas très bon, mais on se rend compte quand même que la moto est complètement différente. Ce sont des vrais pneus de course qui seront autorisés là-bas. Et ça va déjà changer aussi pas mal de choses.
C'est des pneus qui sont adaptés pour ce genre de compétition.
Voilà. Et qui sont en gomme.
Parce qu'on en reviendra un petit peu après pour le départ et la compétition. Comme tu es à 2800 mètres, les températures, ils ne sont pas tout à fait identiques quand tu es à 2000 et à 3000.
Déjà à 2000,
donc les pneus 3x10.
Surtout qu'on verra après, les essais commencent à 4h du matin. Donc, alors dans la quête du poids, cette année, on est parti sans démarreur électrique. Aujourd'hui, pour les 28 jours qui me restent, ça va être un petit regret, ça, parce que...
Donc ça se démarre au kick.
Elle se démarre au kick, et...
Voilà, et donc quitter en 750...
Quitter en 750 avec un moteur à peine
c'est
rodé.
C'est du lourd.
Pour
la démarrer.
À 3000 mètres, voire 4000 mètres pour la première séance d'essai qui se déroule en hauteur, ça va être sympa.
Donc voilà. Donc
ça va être rock'n'roll le démarrage, mais bon.
Est-ce que, franchement, à 4000 mètres, on manque un petit peu de souffle ou...
Mais c'est pour ça que
est-ce
j'ai
que
fait
ça
beaucoup...
sent ou...
Mais j'ai eu la chance que ça se sente pas il y a deux ans, parce que j'avais fait beaucoup de vélo.
Non, mais c'est aussi qu'il y ait 10 fois ou 15 fois, tu sais.
Voilà, j'avais la chance de la démarrer avec le bouton magique. Ouais. Là, c'est vrai que si je dois donner 10-15 coups de kick à chaque fois de la démarrer, c'est pour ça que j'ai pris deux pinces et une batterie. Et puis, on essaiera de la shooter comme ça.
Très bien. Donc, la moto, hein, préparée, peinte. Et puis tiens, t'en as profité aussi pour te faire repeindre un casque.
Ah oui.
Alors, un pilote pas du tout connu. D'ailleurs, tu t'es trompé, t'as mis un Néo-Zélandais. Et en fait, je me suis renseigné, c'est un Australien.
C'est
Johnny Dott.
Private joke.
Alors en fait, j'avoue qu'il a pas fait beaucoup de, il a pas gagné beaucoup de grands prix. Un pilote des années 70. Par contre, il a assisté à cette fameuse la catastrophe dans la QV grande
à Imola, l'accident mortel
au Pasolini et
Saarinen.
Et Saarinen,
c'est lui qui a prévenu les commissaires. Oui. Enfin, je veux quand même insister parce que pour moi c'est une légende quand j'étais gamin. Ce type,
il est. Quand c'est même... marrant parce que pourquoi ce pilote là ?
Il est quand même champion du monde en 750.
Oui, alors j'ai pas réussi à trouver les
74. Ouais. Parce que quand je pense qu'on a tous commencé comme ça, en regardant le Continental Circus, c'était un mythe, ces pilotes qui se déplaçaient en caravane. Et pourquoi j'ai dû regarder mon premier Grand Prix dans Moto Journal. Il avait gagné en Autriche, il a gagné pas mal de fois ici à Chimay ou à Mété. Et c'est venu comme ça. Alors, pour l'anecdote, comme tu dis, effectivement, il est australien. Et quand j'en parlais autour de moi étant gosse, dès que je parlais d'un pilote australien
Finlay,
qui était le symbole du pilote privé, tout le monde disait Jack Finlay. Voilà. Et j'en ai eu marre.
Qui avait un kangourou sur son casque, donc forcément, kangourou et australien. Voilà.
Hein. Et unilatéralement, j'ai décidé de naturaliser Johnny Dodds, néo-zélandais. Et ici, quand j'ai fait repeindre le casque à ses couleurs, j'ai mis effectivement dans la newsletter, il est néo-zélandais. J'avais 14 ans, j'en ai 55.
Tout le monde t'a envoyé des.
Tout le monde a dit mais non,
tu t'es trompé.
Tu t'es trompé. Je dis non, depuis que j'ai 14 ans, c'est un néo-zélandais. Voilà, c'est un petit peu la blague.
Donc il court avec un intégral, à l'époque un intégral déjà assez costaud.
Oui, enfin moi je cours avec
et puis couleur blanc et avec un retour devant. Alors, avec
ça,
un
deux ovales
rouge, ouais, deux ovales.
T'as deux ovales
et puis un dami.
Et un dami au milieu.
Il était reconnaissable avec son
très
casque.
Très reconnaissable. Alors on a fait peindre le casque américain avec ça, donc je pense que ça va. Parce qu'on roule avec un casque aux normes US. Et donc,
oui, donc ça c'est obligatoire aussi.
Ça c'est obligatoire.
Voilà, très bien. Et puis tu as peint ce casque en écoutant ensuite Home Alabama.
Voilà. Il a été fini.
C'est ton groupe favori.
Voilà. J'ai été le chercher le jour du concert, dernier concert de Leonard à Paris. C'est vraiment un petit peu des symboles.
Ouais, écoute, on va passer à un morceau de musique, on va revenir un petit peu après sur tous les problèmes de containers, de bateaux et de carnets à terre. Je sais pas si tu dis ce que c'est que ça, là, Christophe, mais apparemment, t'en as bavé aussi.
Ok. My tracks.
Christophe Marquis, pilote de l'Extrême, est avec nous aujourd'hui dans les studios. Christophe va participer à cette Space Peak donc aux USA, une montagne, un départ à 2865 mètres. Déjà, ça fait bizarre, hein, un départ à 2865 mètres. Hein. Ils auraient pu faire le départ en bas, non?
Alors là, la course, elle aurait dû... Je rappelle que le record de Sébastien Loeb, il est 8 minutes, mais bon, il va plus vite que nous. Mais si on avait dû faire le départ en bas, là, ça aurait été un peu long, j'avoue. Et bon, mon réservoir n'aurait pas suffi.
Et il est arrivé à 4305 mètres, c'est le sommet, en fait.
C'est
sommet, il y a voilà. Quelques mètres qui diffèrent, parce que j'ai vu sur Internet, ça donne 4301 mètres, mais quand tu fais l'addition, normalement, c'est 5 mètres.
C'est hein. Ça, ouais, voilà. 4305.
Il faudrait un peu revenir un petit peu sur tous les problèmes de paperasse, hein, parce que là, tu dois envoyer la machine en container, toi, tu dois faire les papiers aussi.
Voilà, on était.
Il y a des problèmes de carnet ATA, on ne sait pas ce que
c'est. Hein. On était 4 pilotes français inscrits à l'édition 2015. Il y en a un qui est tombé, qui s'est blessé, qui a déclaré forfait. Donc, on est plus que 3. Et bon, on a été, malgré l'avance qu'on a pris, on a quand même été à la bourre dans pas mal de choses. Évidemment, on n'habite pas dans la même région de France. Donc, il a fallu envoyer les motos, les centraliser quelque part. Fabriquer des caisses de transport, donc ça paraît simple comme ça. En fait, on récupère tous les motards qu'on va comprendre. Quand les motos arrivent du Japon dans les concessions, elles sont dans des caisses en ferraille.
Oui. Ou en bois.
Non, en ferraille. Parce que si on prend des caisses en bois pour les envoyer aux USA, il faut du bois spécial, du bois qui vient de forêts non traitées, etc. etc.
D'accord.
Donc ça coûte une fortune.
Donc il faut que tu trouves la ferraille.
Donc on récupère ces caisses en ferraille, mais une fois qu'on les a faites, bien entendu, elles ne sont pas adaptées forcément à nos motos. Il faut les souder entre elles, puisqu'il y a 2 motos, au départ 3. Il faut les fermer complètement, il faut mettre dedans les cuirs, les casques, l'équipement, etc. Et que ça abîme pas trop. Donc c'est déjà pas mal de boulot. Et chacun a son travail à faire dans son coin, donc on est un peu pris par les événements et on a raté ce qu'on appelle la partie administrative, le carnet ATA. Alors c'est quoi un carnet ATA? C'est quand on envoie quelque chose hors Europe, en l'occurrence aux États-Unis, il faut faire une liste Donc on demande à la chambre de commerce locale et on fait une liste. Alors c'est très précis. Par exemple, nous, on a mis deux motos, alors une Vauxhall, une XS, tel numéro de série et tout, deux casques de telle chose, deux caisses à outils avec des clés. Enfin, on doit vraiment détailler complètement.
Lister
on doit mettre le prix.
Ouais. Ah, le prix en plus. Oui.
Parce que ça sert aussi d'assurance. D'accord. On doit mettre le poids et on doit traduire en anglais, en l'occurrence, pour que les douaniers américains puissent... dans le conteneur, ouvrir éventuellement et vérifier qu'on ne transporte pas des choses illégales, etc. Ce carnet, bien sûr, est payant. Hein, il y a une estimation, c'est 10% du prix de la valeur, etc. Et surtout, ça prend généralement entre une dizaine de jours et trois semaines pour le faire. Et là, il nous a resté trois jours pour le faire.
Oui, alors tu dis dans ton mail qu'effectivement, à cause d'un automobiliste un peu...
je me suis fait renverser en voiture.
Tête en l'air, voilà. Tu t'es fait renverser par la voiture.
Voilà, donc ça
retourne. Et donc tu n'as pas eu le temps, qu'une nuit éventuellement pour remplir ce fameux carnet.
Alors un grand merci à la chambre de commerce de Lille qui nous a fait un sacré coup de main parce qu'on est tombé sur une collaboratrice de la chambre qui s'occupait que de moi pendant une journée. On a fait le carnet à terre en live, etc. Et tout. Ça a été fait vraiment aux petits oignons. Alors après, je te passe les détails, mais il faut un certificat de dégazage pour prouver que les réservoirs sont vides.
Ah oui.
Il faut un certificat prouvant que les batteries sont débranchées. Enfin, c'est vraiment des choses très précises. Après, il faut amener les motos au Havre. Oui. Là, on les laisse entre les mains des dockers. On n'a plus le droit d'y toucher. Les dockers chargent donc ces caisses qui sont fermées, les motos sont dedans, ils les chargent avec des transpales, ils les mettent dans un conteneur. Alors dans ce conteneur, il y a d'autres choses, forcément, puisqu'un conteneur, il peut y avoir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est mélangé dans un autre conteneur.
Oui, il y a les motos, plus d'autres choses.
Plus d'autres choses.
En espérant que ça ne va pas trop se...
Normalement, ça ne doit pas.
Se emballer un peu.
Normalement, ça ne doit pas. On a une traçabilité.
Retrouver ta moto réduite.
Voilà, on a le tour...
15 cm.
On a le tour à Bonneville, en 2010, voilà. Les motos étaient tombées. Bon, là, elles sont sanglées dans les caisses. Et donc, on a une traçabilité, on a un code barre. Et on sait que les motos donc, sont parties il y a 8 jours du Havre. Elles vont arriver dans peu de temps aux États-Unis, parce qu'en fait la partie presque la plus longue, c'est le transport terrestre. Donc elles vont mettre autant de temps pour traverser les USA en camion qu'elles auront mis en conteneur.
Effectivement, voilà. cette montagne de l'enfer, hein, c'est presque au milieu des USA.
C'est au milieu du Colorado. Hein,
dans le Colorado.
Dans les Rocheuses.
Si ça arrive effectivement du côté de New York où,
c'est ça,
où il faut du temps pour arriver là-bas. Voilà. C'est pas le seul problème que tu as eu, hein, parce que tu voulais. Peut-être qu'on va revenir après, on va passer un morceau de musique. Hein, tu voulais enchaîner cette année, c'était exceptionnel. Hein, tu avais décidé. T'es un peu fou, faut avouer aussi, hein, Christophe. Tu voulais faire donc cette fameuse montée impossible et tu voulais enchaîner après avec Bonneville, l'Axalé, hein, Bonneville, où on bat le record des vitesses. Hein, c'est là un endroit vraiment spécifique aux USA. Et à Claude, d'ailleurs, je pense qu'on fait ça sur Terre. D'ailleurs. Voilà. Et puis tu as eu des petits problèmes. Et on va raconter après le morceau de musique.
Ah!
Et direction les USA, cette fameuse montagne Passpeak, une course de côte de 19,93 km de long. Ça, c'est précis, hein, Christophe.
Ouais.
Hein, mais 156 virages. Hein. Il y a plein de vidéos sur Internet.
Oh, oui, hein. Oui.
Et il y en a même. Avant de revenir un petit peu sur les petits problèmes que tu as eu avant de partir, enfin là, en bas, à 2600, ça va encore, parce que les virages sont à l'intérieur de la montagne.
Voilà, voilà.
Mais par contre, quand tu arrives en haut. Là, t'es plus à l'intérieur de la montagne, t'es sur le flanc de la montagne.
Oui, et
il n'y a pas de barrière de.
Il n'y a pas de radio sécurité.
Il n'y a pas de rail sécurité. Il y a une paire de mecs qui y vont. Hein. Surtout en bagnole. Hein.
Je sais pas, j'ai jamais regardé.
Non. Non. Non, t'as raison, faut pas regarder.
Je regarde uniquement sur la gauche, jamais sur la droite.
Je t'invite pas à regarder parce que ça fait quand même très impressionnant. Ouais, ouais, non, t'as raison. Voilà. Donc on revient un petit peu, voilà, tu voulais enchaîner, donc cette montée impossible, elle est possible forcément,
oui,
c'est une course de côte. Mais tu voulais enchaîner avec essayer de tenter un record de vitesse,
ouais,
sur le lac de Bonneville.
Voilà,
c'est dans l'Utah. Alors, Colorado, l'Utah, c'est deux états qui se collent. Hein,
ouais, puis c'est 5h30 de route, je crois.
Mais par contre, c'est pas la même époque. Donc tu devais revenir. Tu devais un mois de décalage. Et t'as pas un mois de vacances à prendre.
12 jours pour Passpeak.
Donc 12 jours pour Passpeak. Plus là-bas, non, c'est pas possible. Pas encore à la retraite.
Ben non, j'aimerais bien.
Donc tu reprenais l'avion après la course de côte. Et puis, au mois d'août, tu repartais pour Bonneville.
Alors, le projet était
bien. Mais voilà, petit problème. Un gars qui devait te vendre donc une Hayabusa, apparemment.
Ouais, voilà, on est parti sur un projet qui a avorté 2-3 fois. Mais au niveau des erreurs de choix de machine, plus pas mal d'autres contretemps. On devait rouler avec Momo, chacun échanger les motos, ça devait être bien prévu, ça a foiré. Moi j'ai pris mes billets d'avion, on a réservé tout était prêt. Et voilà, quoi, c'était. Moi j'y étais en 2010 à Bonneville, j'ai fait Passpeak en 2013.
On rappelle que c'est pareil, Bonneville a un petit peu d'expérience.
Voilà, mais je l'ai fait avec une vieille moto.
Tu as battu le champion du monde, voilà, t'es champion du monde.
On avait un record du monde.
En
175
Peugeot. Hein.
Voilà, et donc je m'étais dit, bah là on va le faire avec une moto qui va vite.
T'es champion du monde, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de catégorie. T'es arrivé avec une moto.
Dans cette catégorie. Open.
Open.
Voilà, une
catégorie. Et donc, voilà.
Et ici, on était parti sur une catégorie donc, qui est une catégorie où il y a un record qui était à 200,71. Alors ça fait toujours sourire les gens. 200,71, jusqu'au moment où on rajoute que ce sont des miles.
Voilà. C'est pas pareil.
Donc ce qui est pas du tout pareil, ça fait 360. Donc là, ça fait 360.
Avec Hayabusa, t'étais parti pour vraiment.
Bah, là, avec une Hayabusa.
Pour tenter de battre le record du monde.
Bien. Non, on l'aurait pas battu. On n'est pas naïf. Mais on n'aurait pas été loin. Je veux dire, il nous aurait manqué 20-30 bandes, quoi. Un Hayabusa d'origine, c'est 300
bandes.
Oui,
faut
mais.
Il faut aller chercher après.
Il
hein,
faut aller chercher, mais on roule vite. On se fait plaisir, on roule vite.
Ouais.
Tandis que les Suzukistes m'en voudront pas, mais avec un bandit, rouler vite avec un bandit, il faut mettre énormément d'argent dedans, puisque c'est pas une conception mécanique.
Cette Hayabusa s'est transformée en GSX-R.
Ouais, et puis finalement, ça s'est retrouvé
et
sur un bandit.
Et ça s'est transformé après, la personne ne t'a proposé un bandit.
Donc, voilà. Et donc, c'est pas la peine.
Et en plus, il n'y a même pas un mois et demi.
Voilà, puis tous les aléas qu'on a cités, chacun de son côté, des aléas au niveau du temps. Ce qui nous manque beaucoup, c'est le temps. On devait faire ça en 2016, on a avancé d'un an et ben on se rend compte que c'est quand même. C'est pas juste préparer une moto en mettant dessus une plaque à numéro, quoi. C'est concevoir complètement, c'est la mettre aux normes, la mettre aux routes. Les essais. Les essais sont déjà en France, ici, pour trouver une piste où on peut rouler vite.
Pour pouvoir déjà trouver une piste.
Même si Clastres a la sympathie de nous accueillir, à Clastres, on peut pas rouler vite non plus, même sur la piste de drague. Donc c'est vrai que c'est. Plein d'aléas, et puis voilà. Donc moi, j'ai sagement décidé décidé de ne pas aller à Bonneville cette année. Et comme je fais ça tous les 2010, 2020, voilà. Voilà. Je retournerai en 2020.
2020, pourquoi? Parce qu'en 2020,
j'aurai 60 ans.
Voilà,
ça sera l'anniversaire
de mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Et donc, tu décides en 2020, cette fois-ci, de faire les deux.
Voilà.
Ça va te laisser
le temps de le préparer.
5 ans, là, pour.
Correctement,
pour faire
le XS sera encore plus peaufiné. L'autre moto, je
sera passé en 1000 cm cube, parce qu'apparemment, j'ai vu que les 650, on peut les passer.
On peut aller jusque 1000, mais bon, ça sera.
On peut les passer en 1000 aussi.
Oui, mais ça sera indémarrable et refusé dans la catégorie.
Très bien, on va passer un morceau de musique et après on va revenir un petit peu donc le programme, hein, parce que ça dure toute une semaine le
Passpeak.
Hein, y a l'inspection technique, y a les qualifications, puis il y a tout un truc à comprendre. Hein, ça se passe pas facilement, ça.
Tout à fait.
la conquête du Graal avec Christophe Marquis pour cette fameuse et mythique course de Pikes Peak. Christophe, donc ce sera le 28, le 26, 27, 28. 28, tu prendras le départ de cette course. Tu seras donc à 2600 et quelques mètres. Donc là, c'est pour te mettre en condition hein, tout de suite. Là, il reste 28 jours, là, donc il va falloir le faire. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas que la course, il n'y a pas que ce jour-là. Hein, ça commence toute la semaine en fait.
Voilà, donc déjà on arrive, nous.
Le lundi 22.
Voilà, en fait, déjà là, le samedi matin, en arrivant à l'aéroport, on va chercher on fait livrer le conteneur chez un gros groupe. Il y a un énorme concessionnaire multimarque là-bas, moto, à Colorado Springs, qui a un immense garage et qui est sympa. On connaît tous les Français qui roulent là-bas le connaissent. Donc on fait livrer les motos chez lui. Donc déjà on va chercher les motos, démonter les caisses,
voir déjà si tout
vérifier
est en
tout
état.
Va bien, remonter les guidons, les machins. Enfin c'est déjà un petit peu de taf. On a loué un gros camion US avec une plateforme élévatrice. On amène les motos au motel, on s'installe. Voilà, là on se repose un petit peu parce qu'on a quand même quelques heures de vol dans la tronche. Et le lundi matin, le combat commence. Donc logiquement, tout va bien se passer. Contrôle pilote, donc les contrôles médicaux, les contrôles. C'est-à-dire que la catégorie vintage.
Contrôle médical, c'est quoi c'est...
La catégorie vintage, il faut automatiquement avoir plus de 50 ans pour courir en catégorie vintage. Et il faut donc avoir un bilan médical complet en anglais qui fait 5-6 pages. Il faut avoir un électrocardiogramme traduit en anglais. Il faut mal de choses. Ah, cette année, il nous faut une licence américaine.
Ah non, c'est la machine et le pilote alors.
Voilà, une licence AMA, la fameuse licence américaine AMA, qui nous sera offerte cette année sur place. Donc après la partie tech, toute la partie vérification administrative, les bracelets, les passes pour les Américanos, enfin tout ça. L'après-midi, on commence les contrôles techniques. Donc il y a un immense parking sur un très très grand palace, un petit peu comme à Las Vegas, quoi, un immense hôtel où il y a beaucoup de jeux de casino. Et il y a les voitures d'un côté, les motos de l'autre. Et c'est à l'américaine.
Tous les concurrents sont sur ce parking.
On passe un par un. Ouais. Et donc il y a une checklist, moi j'ai la mienne, je la connais par cœur, c'est une checklist qui fait 3 pages pour la catégorie vintage. Sur les 3 pages, il doit avoir, je sais pas, 36 ou 37 points, et ils les prennent un par un. Donc ils commencent par l'aspect, la propreté, le machin et tout, perçage des axes, ceci, enfin tout est vérifié, la largeur, le diamètre des numéros, la hauteur des plaques à numéros, enfin tout est vérifié. Mais ce qui est paradoxal, comme à Bonneville, c'est qu'ils ne font pas tourner les motos. Ils ne les feront pas démarrer, il n'y a pas forcément de contrôle du bruit puisqu'on est en peau libre. Ils contrôlent les équipements, donc casque, cuir, dorsale. On doit rouler avec un rest neck, c'est-à-dire tu sais ce qu'on met autour du cou, là, pour éviter que les vertèbres pètent. Les bottes, les gants, enfin tout ça c'est vérifié. On doit mettre un écusson édition 2015 Pikes Peak sur le cuir. On doit avoir notre numéro, le nom est brodé ou dessiné dans le dos pour que les spectateurs puissent... Comment, c'est une course de côte, ils nous voient passer de dos.
Comment tu fais ça
parce que le cuir est brodé. Non, mais le cuir est brodé depuis longtemps, quoi. Je veux dire.
Ah oui,
vous l'avez fait ici. Quoi, voilà, on l'a fait ici. Et puis normalement, on a les photos officielles pour le programme, etc. Enfin, c'est très très rodé. Et mardi matin.
Donc ça vous prend.
Ça c'est la journée de lundi. Voilà, on repart à l'hôtel et mardi matin les festivités commencent. Donc alors Pikes Peak, ça a une particularité, cette route que tu décris si bien maintenant, les 20 km de montée, 156 virages, c'est une route au milieu des Rocheuses, mais c'est dans un parc naturel ouvert aux touristes. En bas, il y a une barrière, les touristes payent l'entrée et en haut, ils redescendent en voiture ou par un petit train à crémaillère. Donc ça c'est le côté typiquement amérique, on fait une course de légende qui existe depuis presque un siècle, mais on va pas perdre de fric quand même. Donc à 10h, la route est ouverte aux touristes.
C'est curieux pour la semaine quand même,
réserver
la route et la montagne pour les pilotes.
Les essais sont avant 10h du matin, ce qui veut dire qu'on se lève à 2h du matin.
À 2h du matin, oui.
On charge les motos dans les camions, on a une demi-heure de route pour arriver... À cette montée.
Parce que vous êtes dans la ville de Colorado.
De Colorado Springs. Là, on serait parti en 3 parties. La course de côte est séparée en 3. La partie basse, la partie moyenne et la partie haute. Hein, c'est pas compliqué. Les autos, je ne sais plus dans quelle ordre. Les autos font les premiers essais sur une partie. Nous, en bas, les camions au milieu. Personne ne se touche. Mais le lundi, ce sont des essais libres. Il n'y a pas de cellule de chronométrage, on ne nous a pas mis les transpondeurs, c'est juste pour découvrir comment...
Oui, parce qu'on va expliquer aussi aux auditeurs qu'il y a un gros problème de carburation. Hein, parce
évidemment,
quand tu es à 2600 mètres...
Uniquement pour nous, pour les motos anciennes, parce que toutes les motos de course moderne maintenant
avec
sont en injection, ils se foutent complètement des problèmes de
Mais pour les motos, c'est autre chose.
Le mardi, le mardi c'est donc libre, le mercredi, le jeudi et le vendredi, ce sont les essais officiels, avec donc les cellules de chronométrage et les transporteurs sur les motos. On commence par une séance d'essai le mercredi en haut, le jeudi au milieu et le vendredi en bas. Ils font l'addition des trois temps, et il faut avoir fait un temps de référence, sinon on n'est pas qualifié. Il faut avoir fait moins de 10% du temps du meilleur de la catégorie. D'accord. Et le vendredi soir, ça c'est ce qu'ils appellent la Fan Fest, c'est une course qui est très très connue aux USA.
On va revenir, on va passer à un morceau de musique, okay, et puis on va terminer donc avec ce programme.
Avec la FanFest.
Donc la FanFest, c'est la fête, non ?
C'est la,
une espèce de fête où tout le monde se réunit le vendredi
pour
soir,
les spectateurs.
Parce que le samedi, il n'y a rien.
Le samedi,
et puis dimanche, c'est là.
Et dimanche, on débranche.
Et on débranche. Voilà. Je sais pas si avec ce type d'engin on peut faire espace pic. Non, ça va être dur, hein. Ou catégorie
même.
Peut-être 50 cm cubes.
50 cm cubes semi-électrique à vapeur.
Tiens, en parlant d'électrique, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de véhicules électriques en fait.
Oui. Avec la
ça doit être un bon essai apparemment.
Ben, il y a 2 ans, le record absolu en moto, au niveau de temps, c'est une moto électrique. Qui n'a pas terminé première parce que c'est une catégorie qui n'est pas dans le classement. Mais
ouais.
Le record absolu de la piste, le mec a roulé quasiment dans les temps de l'homme.
C'est très bien parce que, en fait, il faut pas beaucoup. Enfin, il faut ni. une quantité d'énergie minimum.
Oui.
Puisque tu fais que 20 km, et comme les moteurs électriques sont très coupleux quand même, ça me permet justement de faire des performances qui sont un peu surprenantes. Voilà, on termine donc cette semaine de course. Hein. Donc on arrivait au vendredi après les qualifs, et normalement je pense qu'il n'y a pas de problème, parce que l'année dernière... T'avais un doute, hein.
Il y a deux ans, j'étais passé
pas qualifié.
Pas qualifié. Hein, voilà. Je me suis qualifié dans la dernière.
Et pas de remboursement
de
frais d'inscription. Non,
les rêves ne se remboursent pas, monsieur, même quand on les aime.
Les rêves ne se remboursent pas.
Surtout pas par la sécu.
Non, parce que l'année dernière, t'avais quand même.
Ah, j'étais passé. J'avais été qualifié à la seconde. À une seconde plus, j'étais pas qualifié.
Une seconde. Vache. T'as bien un virage où t'étais craché dans les pognes un petit peu plus.
T'as
bien fait.
Un petit peu ce qui me sert de cerveau.
Très bien. Donc cette fois-ci, c'est pareil, mais bon, je suppose qu'avec un 750, avec 100 cm3 de plus, avec des bons pneus et des bonnes plaquettes de frein,
tu
vas pouvoir le faire. Donc voilà, donc après cette semaine de qualif, le vendredi, c'est la fête.
Alors, comme c'est une course qui est légendaire aux USA, je crois qu'il y a 40 000 spectateurs dans une petite ville, quoi. Le vendredi soir, tous les concurrents, auto, moto, camion, quad, doivent exposer leur moto dans la ville et c'est ouvert
au public. Donc c'est
dans le centre de Colorado Springs. Donc c'est la fête.
C'est la place en fait. Hein.
Musique,
majeure. Parce que là-bas aussi il y a des places.
Comme font les Américains. Non, il n'y a pas de place.
C'est pas de place.
Mais et les spectateurs déambulent, prennent des autographes, on peut prendre des t-shirts.
Toi aussi, tu signes.
Voilà. Ils sont contents. Ils voient des Français. Ils ont vu dans le programme pilote français.
Pilote français. Ils viennent te voir.
Ah, ils sont très. Mais ce sont des passionnés parce qu'il faut savoir que le samedi c'est off, le samedi nous on se repose.
Donc le samedi il n'y a rien du tout. Hein.
On bichonne les motos, on nettoie, etc. Et à partir du samedi soir, donc, comme tu l'as dit, 4300 mètres dans le Colorado, ils pèlent un petit peu. Les spectateurs, les purs et durs, ils partent en famille complète, payent leur entrée, montent le soir, la nuit, avec les duvets, les glacières, les machins.
Ils vont s'installer déjà.
Pour être aux plus belles places.
Plus belles places
et quand on parle dimanche matin, parce que bon, après, c'est la course, il y a des gens partout et les mecs se sont battus pour être dans les belles places. Et ils dorment la nuit là-bas. Je peux dire que.
Christophe, là, j'ai vu sur des photos, il y a de la neige en haut de.
Il y a deux ans.
Alors en juin, peut-être, il n'y a pas de neige.
Il y a deux ans, en juin, il y avait encore un peu de neige qui traînait sur les lambeaux de la montagne en face. Quoi. Donc le dimanche, on repart
donc,
à la même heure.
Les spectateurs partent après avoir regardé les machines et avoir fait signer les autographes dans le centre de Colorado Springs. Hop, ils prennent leur voiture et ils vont réserver leur... Et c'est payant en plus.
Et c'est payant, bien sûr.
Ah oui, la course pour les spectateurs, c'est payant aussi.
Bien sûr. Et donc, c'est retransmis à la télé américaine en direct, etc. Donc le dimanche matin, rebelote, on repart à 2h du matin. On arrive là-bas, mais là, nous, on dort. Cette fois-ci, on dort dans les camions, dans les véhicules, puisque le départ de la course est à 10h. On attend de se reposer jusqu'à 10h, on refait un petit break, et à 10h, c'est le départ de la course. Avec une nouveauté cette année, c'est que ce sont les motos qui partent, les motos vintage, les motos de dirt track, qui vont partir en premier.
Donc à 10h.
À 10h. Ce qui veut dire aussi que nous sommes la seule catégorie.
Alors 10h, est-ce que c'est un bon horaire pour le soleil?
Il y a deux ans, il faisait bon. Bah bon,
pour pouvoir chauffer les pneus.
C'est quand même à 2800 mètres d'altitude. Donc,
bah oui, non, mais quand même. Alors, écoute, ce serait mieux midi, 13h.
Oui, mais il y a. Le problème, entre guillemets, c'est que nous, en catégorie vintage dirt track, on est les seuls pour lesquels les couettes chauffantes ne sont pas autorisées. Donc à 10h, on va partir sur piste froide.
Oui, alors, bon,
en pneus froids, alors, il y aura eu deux ouvreurs devant nous.
Ouais.
Mais il y a deux ans, on partait en dernier les vintage. Donc il y avait eu 150 motos devant nous. Ouais. Les ouvreurs, c'était bien sec, il y avait des traces de gomme, c'était bien fait. Là, on va partir sur la piste froide en pneus froids. Et je t'avoue que ça me...
Bon, alors ça, si tu vois, on a regardé un petit peu les concurrents, hein, les vintage, les BSA, les Triumph,
Norton,
du championnat US, tout ça qui vient du championnat de Dirt Track, c'est des mecs qui se crachent dans les pognes quand même, hein, quand on regarde.
Déjà, c'est leur moto, ils les connaissent depuis 30 ans, ils ont gagné pour certains des championnats US de Dirt Track, les motos,
ça va pas être facile.
C'est des ex-versions usines.
Alors je voudrais savoir, tu le fais pour quoi là? Tu le fais pour participer ou tu le fais pour gagner quelque chose? Pour monter sur un podium? Je sais pas, il y a trois marches sur le podium en Amérique?
Il y a trois marches, ouais.
Tu le fais pour quoi, là?
J'avoue que cette année...
T'as une petite idée, quand même?
Non, c'est pas une idée, mais j'adorerais...
Tu voudrais bien dire...
J'adorerais faire un podium, hein, ouais.
Faire un podium?
Ça serait... Non,
mais c'est ce que je me suis dit. Dans l'année passée, il y a été pour s'amuser, pour voir comme
ça. Ouais,
mais là, je vois bien que tu commences un petit peu à peaufiner le bazar.
Ah là, je serais extrêmement déçu. Enfin, après, on verra bien, mais je serais très déçu de pas être...
Bon, donc on va suivre ça. Donc,
ouais.
Donc je suis content, je suis très, très contente que tu me dises que bah, voilà, tu vas là-bas pour, ouais, pour faire quelque chose de bien. Voilà, très bien. Écoute, on va passer à Mozambique et on a Benoît de la FEDE, hein, le président de la FEDE ici du nord de la France, qui nous a rendu visite. Il y a quelques infos à nous communiquer. On va passer à un morceau de musique et puis je te propose de discuter avec lui après.
Bien sûr.
Voilà, nous sommes en compagnie de Benoît, coordinateur hein, de la FEDE. Ouais. Benoît, tu vas nous annoncer quelques petites dates de manifestation où on pourra vous retrouver.
Voilà, donc bonjour à tous. Donc voilà, on aura le plaisir de se retrouver le 6 et 7 juin à Bouchain. Bouchain, il y a un festival, je crois qu'ils appellent ça un festival de la moto.
Festival de la moto,
voilà, c'est une très grosse manifestation. On est toujours très très bien reçus. On est, pour situer, pour les gens qui connaissent, souvent face au terrain de tennis. Donc voilà, entre la salle et la scène de spectacle. Et puis on sera là tout le week-end, on vous attend.
Donc là, on peut prendre des infos.
Ouais, prendre des infos.
On peut se renseigner un peu
voilà,
sur
Il y a un petit peu d'infos.
Ce qui se passe dans
même,
la région.
Voilà,
là. Il y a pas mal d'infos, oui, en ce moment.
Il y a un petit peu d'infos. Hein, ils sont encore en train de nous embêter un petit peu. Donc, voilà, ils nous reprennent le gilet jaune.
Alors, j'ai vu effectivement sur le site de Motomag, à l'occasion du retrait des 100 chevaux, là, j'ai vu qu'éventuellement, on pourrait se repayer un contrôle technique.
Ouais. Alors bon, c'est des mesures d'annonce.
On n'en finira jamais.
Non. Il faut savoir que pour l'instant, le contrôle technique est repoussé jusqu'en 2022 par des lois européennes. Donc les lois européennes, pour l'instant, sont plus favorables que les lois françaises. Le seul problème, c'est qu'ils ne l'appelleront pas contrôle technique, ils l'appelleront contrôle de mise en conformité.
Voilà, par exemple.
Et puis, ils veulent mettre ça pour, par exemple, les motos d'occasion. Donc quand on va acheter une moto d'occasion, il faudra qu'elle soit certifiée par un concessionnaire. Le gros problème, c'est que derrière, il y a la SIAM, donc c'est la Confédération des sociétés d'importateurs d'automobiles et motos, qui, eux, font le forcing parce qu'eux, il y a du fric à gagner.
Bien sûr.
Un contrôle, c'est 70-80 euros. Imagine ça à chaque moto vendue.
Voilà.
Et il y a notamment un débat sur lequel on est en train de faire, c'est que pour l'instant, on essaye d'avoir ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire que il faut s'imaginer que les motos vendues au 1er janvier, enfin au 2 janvier 2016, vont être en plus de 100 chevaux, donc en full. Mais le mec qui a acheté sa moto le 31 décembre 2015, elle va valoir combien de moins que par rapport à celle du 2 janvier 2016. Donc ça va faire qu'il va y avoir 6 mois où les mecs vont plus vendre de motos, ils vont vouloir rattraper du pognon derrière. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un rétrofit, donc avec un contrôle éventuel s'il y a une remise en conformité. Mais bon, enfin voilà.
Et on aura le droit de débrider celle du 31 décembre.
Alors, on n'en sait rien, justement. C'est ce qu'on demande. Voilà, nous, pour la question, c'est ça, de savoir si on pourrait de débrider celle qu'on a avant, puisque forcément, elle perd de la valeur. Et puis, y a pas de raison qu'on soit différent des autres.
Le délégué interministériel de sécurité routière a donc a demandé à ce qu'on fasse un contrôle technique. Il est d'accord pour éventuellement débrider ces machines d'avant.
Il se prononce pas. Il se prononce pas sur le débridage. C'est des mots qu'ils utilisent pas chez eux. De toute façon, c'est un vocabulaire qu'ils connaissent pas. Ils autorisent rarement. Il a juste dit qu'il ferait en sorte que les décisions du ministre soient appliquées et applicables. Ça veut dire, en langage politicien, ça veut dire si on me dit de le faire, vous le ferez, quoi.
Ouais.
Voilà, moi, je vous dirai de le faire, il faudra le faire, avec ce qui va bien, quoi, derrière. Donc, pour l'instant, c'est encore des discussions, c'est des tractations, faut les laisser se faire plaisir à faire des belles petites mesures, mais derrière, on est hyper vigilant, on surveille.
Il faut quand même rester un peu aux aguets.
Justement, c'est ce que je dis. On est vigilant, on surveille, on les laisse pas faire, on leur exprime notre mécontentement, et puis, s'il faut mettre des motards dans la rue, on repartira dans la rue, il n'y a pas de problème, on sait faire.
Très bien. Un deuxième rendez-vous, Benoît.
Alors un deuxième rendez-vous, et celui-là il me tient à cœur parce que c'est nous qui l'organisons. C'est notre deuxième édition de la fête Interclub. Donc c'est le 13 juin. Ça s'appelle Fête de la moto. Cette année, on a essayé un truc, mais Fête FAITES, hein, parce que le but, c'est de faire de la moto et de montrer aux gens qu'on sait faire de la moto et qu'on peut faire de la moto. Donc c'est une rencontre interclub. Le but principal, c'est ça, c'est de se faire rencontrer les clubs moto de la région. Il y aura des belles banderoles qui seront affichées. Et en fait, les gens vont venir avec leurs affiches ou leurs flyers, les afficher dessus et se rendre compte le copain d'à côté, il fait un truc le 15 août, l'autre, il fait un truc la semaine d'après, pourquoi pas faire les deux? Ou s'il y en a deux le même jour, on peut peut-être faire les deux, puis se faire rencontrer les motoclubs. C'est l'intérêt de la chose, c'est ça. Et puis de nous rencontrer les motoclubs, bien sûr. Donc là, on a de la chance cette année parce qu'on a quand même une super affiche. Donc on fait ça aux Mines de l'Homme, à l'entrée du Mines de l'Homme. Les motos seront braquées derrière, sécurisées. Et il y a deux gros concerts. Un concert à 13h avec Vincent & Co qui fait des reprises de Status Quo. Et un autre concert à 19h avec le groupe Faux Passeport qui fait du pop-rock, mais qui est un bon groupe qui déménage bien. Donc voilà, ça va ramener pas mal de monde. Et puis c'est l'occasion de... il y aura une piste quad d'enfants, il y aura des baptêmes moto. Et la dernière petite innovation qu'on fait cette année, en plus de la réunion Interclub, c'est qu'on organise une collecte de vêtements moto usagés, d'équipements moto usagés, casques, blousons, bottes, pour les donner aux sapeurs-pompiers pour qu'eux puissent former les futurs sapeurs-pompiers dans des conditions les plus proches de la réalité. Il faut savoir que la plupart des sapeurs-pompiers, quand ils sont en jeune et quand ils sont en formation, ils s'entraînent sur des mannequins avec des KOE. Découper un KOE ou découper un blouson de cuir sur le bord de la route, ça fait pas du tout le même effet. Ils ont parfois des casques qui sont hors d'âge. Si on peut récupérer quelques casques, même s'ils sont griffés, on s'en fout, même s'il n'y a plus de visière. Ce qui est important, c'est les systèmes de fermeture qui fonctionnent, que ce soit pas des vieux trucs. De toute façon, c'est toujours pour être mis sur des mannequins, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, ça c'est une collecte qu'on organise. organise, bon, pour la première fois cette année, on verra bien si ça marche, mais bon, je compte sur la solidarité des motards et sur la générosité des motards pour faire ça. Et puis dans le même ordre d'idée, ben, on reçoit Ludhôpital, puisque Ludhôpital c'est une association qui aide les enfants hospitalisés en leur donnant un petit peu de joie et de bonheur, et notamment elle leur ramène de jouets, donc nous on collecte aussi des jouets pour eux, ils seront là ce jour-là, des jouets neufs entre 3 et 5 euros, puisqu'il faut savoir que les jouets partent après dans les hôpitaux, donc on ne peut pas se permettre de donner des jouets déjà utilisés ou usagés, il faut qu'ils soient sous emballage neuf, et puis voilà, 3-5 euros, genre Lego, Playmobil, il ne faut pas dire de marque, mais enfin ces trucs-là ça va très bien. Et puis il y aura aussi les papillons blancs qui vont être là, puisqu'ils veulent faire financer un voyage pour les personnes de leur foyer, donc ils vont vendre des crêpes, des gaufres, tout ce qui va bien.
Très bien, donc on rappelle la date, le 13 juillet.
Donc le 13 juin. Dans 15 jours.
Dans 15 jours,
on est dedans.
Et le lieu ?
Alors ça se passe aux Mines de l'Homme, juste à l'entrée du marché d'intérêt national de l'Homme. Le restaurant, c'est le rendez-vous du marché. C'est juste derrière le centre commercial anglo. C'est très facile à trouver. Il faut suivre Mines à Mines et puis on sera là. Il n'y a pas de souci.
Très bien, merci Benoît.
De rien.
Au téléphone, nous retrouvons Alain Delphi. Bonjour Alain.
Oui, bonjour, ici Alain Delphi.
Voilà, bon, je rappelle aux auditeurs que tu es le président du Caïman.
Oui.
Rappelle-nous un peu le Caïman, c'est l'initial. Rappelle-nous un peu le nom du Caïman.
c'est le cercle des amateurs inconditionnels de motos anciennes du Nord.
Voilà, je préférerais que tu le dises parce que j'aurais pu faire une bêtise. Voilà, tu vas nous parler de cette fameuse bourse qui va se dérouler à Bourbourg.
Oui, c'est le 12 et 13 septembre, c'est le deuxième Broc moto. Ça concerne toute année de pièces, hein, c'est-à-dire vous pouvez venir avec une moto au début du siècle, comme des années 80, 90, etc. Quoi.
Voilà, c'est organisé par le Caïman ?
Non, on est dans l'organisation de la fête de la moto de Bourbourg. Hein. En gros, c'est en comparaison, c'est un peu comme Pécancourt, quoi, vous voyez, mais en plus modeste. Mais d'année en année, c'est une manifestation qui monte.
Donc, je sais que vous avez de très belles machines, très belles anciennes, vintage machines aussi.
Oui, bien sûr.
Vous allez les présenter ?
On va faire une exposition pendant ces deux jours et il y aura une randonnée qui va se faire du samedi en début d'après-midi, à peu près 50-60 km dans la Flandre intérieure.
Très bien. Vous organisez aussi une journée découverte ?
Ouais, les journées découvertes, c'est du 11 au 14 juillet. C'est en partenariat avec le motoclub de la Brelle. Donc c'est 4 jours, on se balade dans le nord de la France et la Belgique. Il y a à peu près plus ou moins 200 km par jour. Hein, et c'est, comment je pourrais dire, on assiste au feu d'artifice.
On peut participer même si on n'est pas adhérent là au Caïman ?
Oui, on peut participer, mais il faut absolument une machine avant 1970. Hein.
Très bien. Et puis pour terminer, il y a cette fameuse balade du 15 août que vous organisez depuis des années.
C'est notre balade annuelle au 15 août, comme toutes les années. C'est une randonnée sur à peu près entre 150 et 200 km dans les Flandres.
Alors c'est pareil, là, il faut faire être membre du motoclub, non ?
Non, là pas du tout. Par contre, là c'est ouvert à tous, mais il faut des motos avant 1980, avant 75-80. Quoi, hein.
Donc généralement, donc, cette balade c'est dans les Flandres, tu viens de le dire ?
C'est dans les Flandres, oui.
Vous allez rencontrer peut-être d'autres motoclubs de motos anciennes pour l'occasion ?
Oui, des fois on se balade ensemble, et là, mais le 15 août c'est exclusif au Caïman, hein, c'est-à-dire que on profite que c'est des congés, que toutes les personnes qui partent pas en congé qui puissent faire au moins une journée ludique de moto. Quoi, hein.
Très bien, je suppose que c'est convivial, il y a le barbecue, mais en plus on en était, le mois d'août.
Oui, cette année, il y a la clôture va être faite avec un barbecue. Donc, les parcours sont fléchés ou en roadbook. C'est-à-dire que, bon, on part par petits groupes, par affinité, quoi. Si tu veux partir avec ton copain, ta copine, etc. Quoi.
Et je pense même qu'il doit y avoir le camion balai. Parce qu'on est avec des machines un peu pas trop récentes, quand même.
Au cas qu'il y aurait un problème, une crevaison.
Voilà, une crevaison ou autre chose. Écoute, Alain, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, pas vraiment, mais le week-end on va être moto légende aussi, donc voilà.
Très bien.
Oui.
Tu peux. Vous avez un site, hein, vous avez un site internet. Hein.
Oui. Oui, il faut. C'est un site, pour le moment, on a récupéré l'ancien site. Et d'ici le mi-juin, il y aura un nouveau site qui va être remis sur la toile. Hein, donc, qui est remanié avec photos, etc.
Tu peux nous dire l'adresse actuellement là, de l'ancien, celui qui est encore en cours ?
Le Caïman Motocycle. Vous tapez Caïman Motocycle, vous tombez sur notre site.
Très bien, là, ben, on te souhaite de passer une bonne journée.
Oui.
Et puis, à bientôt.
Oui. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Oh là là, Christophe, ça te paraît un peu mieux pour faire cette course de côte, hein, passe-pique là-bas. Donc,
et Laurent, il n'a pas de musique, de moto électrique, donc il n'a pas ça en stock, Laurent.
Ah bah, de toute façon, sans stock, ça, la radio, ça ne va pas le faire, hein, parce que ce n'est pas très bruyant quand même. Hein, donc moi, je rappelle aux auditeurs, hein, que tu vas participer, c'est une course de fou en fait. Hein. Moi, j'ai vu les images, il faut vraiment en avoir, hein. Enfin, quand t'arrives en haut, j'ai vu une paire de bagnoles se mettre dans le ravin.
Hein. Dis et pas puis... ça, sa femme, elle écoute.
non, mais elle sait.
Elle sera là,
elle,
passant.
L'année dernière, elle y était. Hein, donc,
ouais.
Donc hein, 20 km de montée, 156 virages, 1400, on arrive à 4305 mètres. C'est presque le Mont Blanc, t'imagines, ouais, t'imagines on ferait ça sur le Mont Blanc, on ferait une route sur le Mont Blanc. c'est un truc de fou, toi.
Tu sais qu'à l'époque d'Harry Vatanen, la route était pas goudronnée, hein, c'était encore pire parce que les mecs...
J'avais fait un petit historique, mais on n'aura pas le temps parce qu'il nous reste à peine un quart d'heure. Là. Effectivement, cette route, elle n'était pas...
Elle a été goudronnée entièrement il y a trois ans.
Il n'y a pas de bitume jusqu'au... Donc c'est pour ça qu'on peut... J'ai regardé les temps hein, par rapport à il y a 10 ans. À 10 ans, bon, on ne peut pas vraiment les comparer parce qu'effectivement, c'était bitume et terre. Alors donc maintenant, c'est du bitume partout. Voilà. Là, je voulais revenir un petit peu sur la moto, cette fameuse 650 XS. Pourquoi une 650 XS?
Bah, c'est la moto quand j'étais gosse. C'est
comme le pilote.
C'est la même histoire.
C'est comme le pilote.
C'est comme Johnny Dodds, le néo-zélandais. C'est la même chose. C'est des histoires de gamins. Et j'ai eu, je ne sais pas combien de XS, toutes pourries à l'époque parce que dans les années 80, ça ne valait plus rien. Maintenant, ça vaut le prix du baril, hein, une XS, c'est, tout le monde s'arrache ça. Et bah, brièvement, le dirt track aux US, c'est ces fameuses courses qui roulent sur des... Enfin, les motos roulent sur des anneaux en terre cendrée avec la roue avant en travers. Il n'y a pas de frein à l'avant, ils la font tourner uniquement en glisse de l'arrière. Et c'était dominé pendant des années par celle qu'on va retrouver ici. Non, d'abord par mes futurs concurrents, par les Triumph, les Norton, il y avait aussi des Bultaco en monocycle, etc. et tout. Puis sont arrivés les Japonais, donc principalement Yamaha et Honda. Et Yamaha ont engagé le fameux Kenny Roberts, le multiple champion du monde de vitesse, et ils lui ont fait une moto de dirt track sur la base du 650 XS.
Alors, il passait ses motos, les moteurs à 1000 cm3.
Ouais, voilà. C'était des trucs de folie. Et Robert, ça a été number one. Il a gagné ce championnat américain. Donc, il mélange du dirt track, du flat track, du short track et de half mile. C'est un peu toutes les catégories. Et la dernière année, un peu pour l'anecdote, Yamaha sentait que Harley Davidson, qui était bien sûr le mythe absolu en dirt track, hein, les Harley légendaires de Mert Lowell, etc. et tout, se rapprochait d'eux. Et donc, ils lui ont fabriqué un engin de cinglé. Ils ont pris un cadre de 650 XS. Pas de frein à l'avant, et ils ont mis dedans un moteur de 700 TZ, la moto qui terrorisait les Grands Prix à l'époque. Et Roberts, il a fait deux courses avec, il a dit « on me paye pas assez pour me tuer au guidon de ce truc-là ».
Alors, si lui dit ça...
C'était quand même un mec qui était un peu couillu, et un très grand pilote, pas par la taille, mais par le talent. Ouais. Et après, c'est fini, Yamaha et Honda se sont retirés aujourd'hui, il n'y a plus de japonaises, il y a des Harley privés, il y a quelques Ducat, pour relancer un peu la mode de leur scrambler. Il y a KTM qui revient un petit peu. Bon, c'est des motos qui sont maintenant très légères, très puissantes. Mais quand on parle du symbole de la moto de dirt track US, c'est la Harley 1000 moteur fonte et le XS Yamaha, donc XS. Avec cette fameuse déco jaune à damier.
C'est une moto qui a marqué son époque parce qu'elle est sortie en 69. En fait, Yamaha à l'époque faisait que des moteurs de temps. Hein, et il décide de construire un moteur 4 temps. Ouais. Donc, on va avouer que ça ressemble un peu à une bonne ville. Hein.
Ah ben cible commerciale était la bonne
ville.
C'est
ça, hein, ça ressemble à une bonne ville. D'ailleurs, certains disent, de toute façon, non, c'est une bonne copie d'anglaise.
Voilà, tout à fait.
Alors que non, c'est pas une copie d'anglaise. Parce que j'y ai fait un peu, j'ai regardé quand même. Hein. C'est les cylindres sont en alliage chemisé fonte et non pas tout en fonte, alors que les bonnes villes c'est tout en fonte. Hein, j'ai des costauds, mais bon, voilà. Les carters s'ouvrent selon un plan horizontal. Et ça, tout le monde sait que c'est vachement mieux, parce que ça évite les fuites d'huile.
Voilà, c'est
l'inverse sur les. Hein,
c'est pour ça qu'elle pisse pas l'huile par rapport.
Sur les triomphes. Voilà, t'as pas ce problème-là pour l'instant.
Pas être content au caïman.
Voilà. Ensuite, l'embiellage avec quatre petites masses au lieu d'un gros volant milieu. Hein, alors que là, il y en a quatre petites. Ça favorise les montées en régime.
Voilà.
Hein, donc effectivement, le
et un moteur qui a été conçu avec les ingénieurs de Toyota en collaboration avec ingénieur Yamaha et ingénieur Toyota pour faire un moteur moderne.
Les têtes de
biais
tournent sur des roulements à aiguilles. L'allumage est doté d'un évidemment, c'est automatique centrifuge et les carburants sont en dépression. Ça n'a rien à voir avec une bonne ville, rien à voir. Voilà.
Même si c'était la cible, la concurrente, et qu'elle l'a détrôné quoi, en termes de vente et de fiabilité, puisqu'ils ont sorti un gros paquet, il y en avait partout dans le monde.
Elle finira sa carrière en 1985, hein,
avec un grand guidon.
Avec un grand guidon, mais en fait, elle finira sa carrière en custom.
Voilà.
Il m'a dit que tu en avais un.
J'avais
acheté une Cenus 650 custom. Avec une grande longue fourche.
Voilà, c'est ça. La fourche c'est droite, mais il y avait un grand guidon, il y avait une selle double étage, une grosse roue de 19.
Oui, voilà, c'est ça, ouais, une grosse roue de 19. Oui.
Voilà, c'est. Des roues à bâtons, voilà. Des roues à bâtons, lui des routes des gendarions. Enfin.
Bah effectivement, apparemment en France, ça a été très bien accueilli cette machine.
Oui.
Hein, mais elle va disparaître en 1980, voilà. Et puis la 650 disparaîtra pratiquement du catalogue Yamaha en 85. Voilà. Mais je propose de passer un morceau de musique.
Bien sûr.
Telling everybody they're wrong. Lazy Jesus, lazy Jesus. Go over and fix that chair. You don't do nothing. You gotta do something. Except try to pretend you care.
Benoît, tout à l'heure, on parlait du festival de Bouchain.
Ouais, Bouchain.
Voilà, et ben nous avons Éric Fromont, membre du festival moto de Bouchain. Éric, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, donc tu es membre du motoclub. Vous êtes un motoclub ?
Oui, motoclub.
Voilà. Donc
festival moto Bouchain.
Très bien.
Qui est à part du motoclub.
Donc c'est la grande fête les 6 et 7 donc juin, donc c'est le week-end prochain, donc à Bouchain. Donne-nous un peu le programme, s'il te plaît.
Alors, le programme, on a des festivités avec des spectacles qui sont des spectacles dédiés à la moto, le stunt, le freestyle. On aura aussi des concerts, un concert le samedi après-midi à partir de 18h avec Tribute Mr. Collins, un sosie de Phil Collins, et le dimanche soir à partir de 16h, Tribute Johnny Story avec un sosie de Johnny Hallyday. Voilà pour les
vous êtes fan de Johnny Hallyday, à Bouchain?
Non, mais on a bien varié le plaisir pour les visiteurs qui viennent nous rencontrer pendant ce week-end dédié à la moto.
Bon, bah, finalement, nous aussi, on aime bien Johnny Hallyday. Hein.
Oui. Ah, c'est une légende de notre pays, il n'y a pas
c'est
de
une légende, oui. Oui. Oui, un peu vintage, hein, mais aussi, mais bon. Voilà, très bien. Donc, effectivement, donc on parle de balade aussi. Il y a une balade le samedi et une balade le dimanche.
Alors, il y a une balade de rando quad le samedi à partir de 14h. Et le dimanche, balade moto avec réunion 10h30 pour un départ de vers 11h.
Un grand village exposant, moto et quad, plus de 80 exposants. Hein.
80 exposants, donc des exposants qui sont dédiés à la moto avec le village moto qui va se trouver dans la salle des sports de Bouchain. Et d'autres exposants qui nous aident à faire vivre ce festival, parce que le festival aujourd'hui on va être à sa 12e édition. Donc il y aura de la restauration, de l'équipement moto, du blouson, de la veste, du t-shirt, enfin plein de choses, des activités pour les enfants également. Donc voilà, une belle fête en préparation pour recevoir tous nos invités, voilà. tous nos visiteurs. Et avec un privilège d'une entrée gratuite.
Et voilà, je vais le dire, hein, chose incroyable, entrée gratuite. Alors ça, c'est très rare.
Très, très bien
c'est
reçu.
Très rare.
Très, très bien reçu.
Et bien reçu. Je suis en compagnie de Benoît, donc, le coordinateur de la FEDE, hein, ici, donc, sur la région. Et donc, oui. il garantit une bonne soirée.
Ah ouais, on est vraiment
bonne soirée.
Un bon accueil, un bon week-end. Stunt et tout ça. Vraiment voilà. des choses de qualité pour quelque chose de gratuit, c'est vraiment voilà. très intéressant. Ouais.
Voilà, très bien. On va donc Bouchain, je vais rappeler que c'est entre Douai, Cambrai, Valenciennes.
Oui.
Voilà, et que vous avez un site, hein, c'est festivalmoto.canalblog.com.
Alors, festivalmoto.canalblog.com.
Et ensuite, vous avez un mail, c'est avelinedominique@hotmail.fr.
C'est cela.
Voilà, très bien.
C'est le président.
Merci Eric d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Et puis on espère que vous allez avoir beaucoup de soleil hein, pour votre fête de Festival Moto de Bouchain. Donc je rappelle, c'est le 6 et 7 juin, donc le week-end prochain. Merci.
Alors venez tous nombreux et puis un grand merci parce qu'on est quand même 100 bénévoles qui nous aident à monter ce festival, qui sont au service du public, qui nous rendra visite.
On les félicite en fait. Voilà. Très bien, merci Eric, et puis un bon dimanche.
Merci bien.
Au revoir. Voilà, Christophe, on va terminer cette émission, il nous reste 2 minutes. Donc on va te souhaiter bonne chance pour cette seconde édition hein, de cette passe-pic, là, la montée. Elle est possible maintenant, hein, parce qu'on a aussi une montée impossible. Mais c'est une course de côte. Très hard. Hein. C'est pas ce qu'on peut voir ici en Europe. Nous, avant, il y avait une course de côte ici dans la région. C'était à Licques.
Oui.
Je sais pas si tu te souviens.
Au pays de la volaille.
Il y avait une course de côte. Mais là, ça fait pas 20 km. Et puis le dénivelé, il n'est pas identique.
Un tout petit peu moins haut.
Voilà. Et ben on te souhaite aussi de monter sur le podium parce que c'est ce que tu veux là, t'étais parti pour faire quelque chose de bien quand même.
C'est ce que je veux, ouais.
Alors peut-être la troisième place peut-être.
Ouais.
Parce que quand t'auras 60 ans, dans 5 ans...
On visera la première.
Tu viseras la première, c'est ça. Et c'est actuellement, tu travailles sur quoi? Parce que la moto est partie.
Ouais. La moto est partie.
T'as des choses à faire.
Oui, essayer d'affiner la carburation ici sur place, de prendre une bonne décision sur quelle carburation sur les gicleurs, avec quel gicleur on va partir.
Le problème actuellement, c'est la carburation.
On est encore en réflexion là-dessus.
C'est-à-dire que comme tu pars à 2800 mètres d'altitude et tu te retrouves après à
4003.
Le moteur, surtout le moteur à carbu, hein, ça s'appauvrit. Et donc là, c'est le problème de trouver le bon gicleur.
Il va falloir jouer chaque séance d'essai. Donc, comme en plus, c'est pas une séance complète, chaque fois c'est par petits bouts. Il va falloir essayer d'être bien, à peu près bien en bas.
Est-ce qu'on sent vraiment quand on est à 4003 là-bas, tu sens un peu l'air qui est un peu.
Oui, bien sûr, c'est quand même.
Donc, effectivement, moins d'air, plus d'essence, moins d'air, ou l'essence pareil, toujours pareil, mais moins d'air, ça fait qu'une carburation qui est
très délicate
à régler. Et on peut pas s'arrêter en route pour changer les.
Il vaut mieux pas.
Les gigleurs, t'as pas le temps.
Toutes les motos se suivent toutes les 20 secondes, je pense pas que les commissaires techniques apprécieraient de nous arrêter des trucs. C'est des épingles de lacets, ceux qui ont vu la vidéo.
Très bien. Good luck.
Thank you,
Christophe. Et puis, tu viendras nous raconter ça, hein, ton périple là-bas, hein, au mois de septembre.
Et on emmène la GoPro, donc on pourra.
Et la GoPro, on mettra sur notre site. Voilà. Okay. Merci, Benoît, d'être passé aujourd'hui.
Merci,
Benoît. Voilà, bon, puis on se retrouve dans quelques temps. Merci.
Bon dimanche, tout le monde.
Passez un bon dimanche, au revoir.